Le groupement des intellectuels aveugles et amblyopes présente à l'usage exclusif des auditeurs aveugles et amblyopes le Petit MOOC. Le Petit MOOC est extrait du livre La Caravane de Wilhelm Hauff, H-A-U-2-F. Le texte que je vais lire est traduit par Gertrude Fritsch, F-R-I-T-S-C-H. Il a été édité par Grund, G-R-U-N-D. Il était une fois un garçon de 16 ans environ qui était un drôle de petit bonhomme. On l'appelait le Petit MOOC. Il ne mesurait guère qu'un mètre de haut, et de plus il avait une étrange silhouette. Son corps était petit et grêle, et il devait supporter une tête beaucoup plus grande et beaucoup plus grosse que celle des autres gens. Cette grosse tête était surmontée d'un turban encore plus grand, et ce petit corps était revêtu d'un petit manteau râpé, d'un vaste pantalon et d'une large ceinture à laquelle pendait un long poignard, si long qu'on ne savait pas si c'était le petit MOOC, c'était son nom, qui portait le poignard ou le poignard qui portait le petit MOOC. Le père du petit MOOC était un homme respecté mais pauvre. Ils habitaient en Orient. Le père du petit MOOC n'aimait pas son fils car il avait honte de sa taille de nain et il ne lui avait donné aucune instruction. MOOC, à l'âge de 16 ans, était encore un gamin joyeux avec pas plus de raison que s'il avait eu 7 ou 8 ans et le père, un homme grave, le grondait d'être toujours aussi bête et maladroit alors qu'il aurait dû depuis longtemps être sorti de l'enfance. Un jour, le vieux fit une méchante chute et il mourut. Il mourut laissant son fils, le petit MOOC, pauvre et ignorant. Des oncles au cœur dur, auxquels le père du petit MOOC devait beaucoup d'argent, firent vendre la maison paternelle et chassèrent le pauvre garçon en lui conseillant de parcourir le monde pour tenter sa chance. Le petit MOOC répondit qu'il était prêt au voyage et demanda seulement les habits de son père qui lui furent accordés. Mais son père avait été un homme grand et fort, aussi les vêtements du père n'allaient pas du tout au petit MOOC. Celui-ci coupa ce qui était trop long et enfila les habits. Mais il avait oublié qu'il fallait aussi enlever un peu de la largeur et c'est pour ça que le costume lui allait très mal. Un grand turban, une large ceinture, un large pantalon, un petit manteau bleu, voilà les vêtements qu'il portait. MOOC glissa le long poignard de Damas de son père dans la ceinture, saisit une petite canne et quitta la ville. Joyeusement, il marcha toute la journée. Il était parti à la recherche de la chance. Lorsqu'il voyait par terre un morceau de verre qui brillait au soleil, il le mettait dans sa poche, convaincu que ce morceau de verre se transformerait en un merveilleux diamant. Lorsqu'il voyait au loin la coupole d'une mosquée, ce sont les églises de ce pays-là, qui étincelait comme du feu, ou un lac qui brillait comme un miroir, il courait dans cette direction, car il pensait être arrivé dans un pays enchanté. Mais non. Vu de près, ses mirages disparaissaient. Sa fatigue et son estomac grognant de faim ne lui rappelaient que trop vite qu'il se trouvait encore dans un pays ordinaire. Il marcha ainsi pendant 2 jours, affamé et malheureux, et il désespérait de trouver son bonheur. Les fruits des champs constituaient sa seule nourriture, et il était réduit à coucher par terre. le matin du troisième jour, du haut d'une colline, il aperçut une grande ville. Sur les murailles brillait le croissant des mosquées, des drapeaux bariolés flottaient au-dessus de ses toits et semblaient faire signe au petit Mouk d'approcher. Surpris, il s'arrêta, contempla la ville et les alentours, écoutant les bruits des habitants qui travaillaient, les marteaux des forgerons, les aboiements des chiens, etc. « Oui, c'est là que je trouverai mon bonheur, se dit-il, là ou jamais. » Et malgré sa fatigue, il fit une cabriole. Il rassembla toutes ses forces et se dirigea vers la ville. Mais bien que celle-ci semblât tout près, il ne put l'atteindre que vers midi. Ses petites jambes étaient bien fatiguées et souvent il était obligé de s'asseoir à l'ombre d'un palmier pour se reposer au frais. Finalement, il atteignit la porte de la ville. Il arrangea ses vêtements, son manteau, noua plus coquettement son turban. Tu sais, le turban, c'est une espèce de grande pièce d'étoffe qui s'enroule autour de la tête. Défroissa sa ceinture pour l'élargir et plaça son long poignard un peu plus de biais. Puis, il enleva la poussière de ses chaussures avec un chiffon, saisit sa petite canne et vaillamment pénétra dans la ville. Hélas, il avait parcouru plusieurs rues, mais aucune porte ne s'était ouverte. Nulle part on ne l'avait appelé comme il se l'était imaginé, en disant « Petit Mouk, entre, mange, bois, repose tes petits pieds !» Enfin, il était en train de contempler de bas en haut, tristement, une belle maison, lorsqu'une fenêtre s'ouvrit et qu'une vieille femme se pencha en chantant « Venez, venez, mes amis, venez manger la bouillie !» La porte de la maison s'ouvrit et Mouk vit un grand nombre de chiens et de chats y pénétrer. Il resta quelques instants dans le doute, ne sachant pas s'il devait répondre à l'invitation. Mais finalement, il rassembla son courage et entra. Devant lui marchaient quelques jeunes chats et il décida de les suivre parce qu'il saurait probablement mieux que lui trouver la cuisine. Lorsque Mouk eut gravi l'escalier, il rencontra la vieille femme qui s'était penchée à la fenêtre. Elle le regarda d'un air bourru et demanda ce qu'il désirait. « Tu as invité tout le monde à manger ta bouillie, » répondit le petit Mouk. « Et moi j'ai faim ? Je suis venu moi aussi. » La vieille dame rit et répondit « D'où viens-tu, étrange compagnon ? Toute la ville sait que je ne fais la cuisine que pour mes chers chats et que de temps en temps, j'invite quelques autres chats, des chats de la rue, pour leur tenir compagnie comme tu le vois. » Le petit Mouk raconta à la vieille femme les malheurs de sa vie depuis la mort de son père et la pria de le laisser manger pour une fois avec ses chats. La femme, émue, l'accepta et lui donna à boire et à manger tant qu'il voulut. Lorsque Mouk eut mangé et bu, elle le contempla longuement et lui dit « Petit Mouk, reste chez moi à mon service. Tu auras peu de fatigue et tu seras bien traité. » Le petit Mouk, qui s'était régalé avec la bouillie des chats, accepta et devint ainsi le serviteur de Madame Ahavzi. C'était le nom de la vieille dame. Son service était facile, mais bizarre. Madame Ahavzi possédait 2 chats et 4 chattes. Le petit Mouk devait tous les matins peigner leur pelage et l'enduire de pommades précieuses. Lorsque la femme sortait, il devait garder les chats. Lorsque ceux-ci mangeaient, il devait leur présenter les plats. Et pour la nuit, il devait les coucher sur des coussins en soie et les recouvrir de couvertures en velours. Il y avait aussi dans la maison quelques petits chiens dont il fallait également qu'il s'occupe. mais les petits chiens ne réclamaient pas autant de soins que les chats, lesquels étaient traités par Madame Ahavzi comme ses propres enfants. Par ailleurs, Mouk menait une vie aussi solitaire que dans la maison de son père, car, outre la femme, il ne voyait toute la journée que des chiens et des chats. Il vécut fort bien pendant un certain temps, il avait toujours à manger et peu de travail, et la vieille femme semblait assez contente de lui. Cependant, peu à peu, les chats devinrent méchants. Lorsque la vieille dame était sortie, ils sautaient comme des possédés dans la chambre, dérangeant tout et brisant des beaux objets qui se trouvaient sur leur chemin. Mais lorsqu'ils entendaient la femme monter l'escalier, ils se blottissaient sur leur coussin et l'accueillaient en remuant la queue, comme s'ils avaient été sages tout le temps où elle était partie. Madame Ahavzi entrait alors en colère à la vue de sa maison dévastée et rendait Mouk responsable. Il avait beau protester que ça n'était pas lui, elle avait plus confiance en ses chats qui avaient un air si innocent qu'en son serviteur. Le petit Mouk était très triste de n'avoir pas trouvé là non plus son bonheur et il décida de quitter le service de Madame Ahavzi. Mais comme, lors de son premier voyage, il avait constaté comme il est dur de vivre sans argent, il décida de se procurer par un moyen quelconque le salaire que sa maîtresse lui avait toujours promis et jamais donné. Il y avait dans la maison de Madame Ahavzi une chambre toujours fermée dont il n'avait jamais vu l'intérieur. Cependant, il avait souvent entendu Madame Ahavzi faire du bruit dans cette chambre mystérieuse et il aurait bien aimé savoir ce qu'elle y tenait caché. Comme il pensait un jour à l'argent de son voyage, il lui vint à l'esprit qu'elle y cachait peut-être ses trésors. Mais hélas, la porte restait complètement fermée et il ne pouvait donc jamais accéder à ses richesses. Un matin, tandis que Madame Ahavzi était sortie, l'un des petits chiens qui était toujours maltraité par elle, mais dont Mouk s'était par ses cajoleries assuré la faveur, le tira par le bout de son pantalon comme s'il voulait l'inviter à le suivre. Mouk, qui aimait jouer avec les chiens, ne se fit pas prier et le petit chien le conduisit dans la chambre à coucher de Madame Ahavzi jusqu'à une porte basse qu'il n'avait jamais remarquée. Elle était entrebâillée, le chien la franchit et le petit Mouk le suivit. Quelle ne fut pas sa joie de constater qu'il se trouvait dans la chambre mystérieuse où il désirait depuis si longtemps entrer. Il regarda partout, essayant d'y découvrir de l'argent, mais il n'en trouva pas. Il vit seulement de vieux habits et des pots étrangement façonnés, disposés un peu n'importe comment. L'un des pots attira son attention. Il était en cristal et de belles silhouettes y étaient gravées. Il le souleva et le tourna de tous côtés. Mais malheur ! Il n'avait pas remarqué que ce vase avait un couvercle posé dessus, très légèrement. Le couvercle tomba et se brisa en mille morceaux. Longtemps, le petit Mouk resta figé de terreur. Maintenant, il devait s'enfuir s'il ne voulait pas que la vieille le batte à mort quand il reviendrait. Il décida donc de partir aussitôt, mais il voulut voir une dernière fois s'il n'y avait pas, parmi les affaires de Madame Ahavzi, quelque chose qui pourrait lui servir en route. Son regard tomba sur une paire d'énormes pantoufles. Oh, elle n'était pas belle. Mais ses pantoufles à lui ne pourraient pas supporter le voyage, elles étaient toutes usées. Et en plus, les pantoufles qu'il voyait dans la chambre étaient grandes, grandes. il se dit que s'il les mettait à ses pieds, les gens comprendraient certainement qu'il avait dépassé l'âge de porter des chaussures d'enfant. Il quitta rapidement ses petites pantoufles et enfila les grandes. Une petite canne, pourvue d'une tête de lion, lui semblait aussi perdre son temps dans un coin. Il la prit donc et sortit rapidement. Vite, il courut dans sa chambre, mit son petit manteau, se coiffa du turban de son père, glissa son grand poignard dans sa ceinture et courut, aussi vite que ses jambes le lui permettaient, hors de la maison et de la ville. Ayant passé les murs de la ville, il continua à courir de peur de la vieille jusqu'à n'en plus pouvoir de fatigue. De sa vie, il n'avait marché aussi vite. Oui, il lui semblait même qu'il ne pouvait plus s'arrêter de courir car une force invisible paraissait le tirer. Finalement, il se rendit compte que les pantoufles devaient avoir un pouvoir magique particulier, car c'est elle qui avançait toujours et l'entraînait. Il avait essayé différents moyens pour essayer de s'arrêter, mais en vain, quand enfin il se cria à lui-même, comme on le fait aux chevaux, « Oh, 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 halte !» Alors, les pantoufles s'arrêtèrent subitement et Moufouk, complètement épuisé, se laissa tomber sur le sol. Il était fou de joie de ses pantoufles. Ainsi, il avait tout de même, pour son travail, reçu quelque chose qui pourrait l'aider dans le monde sur son chemin à la recherche du bonheur. Malgré sa joie, il s'endormit de fatigue, car son petit corps fragile, qui avait à supporter une aussi lourde terre, était vite épuisé de fatigue. Pendant son sommeil, il fit un rêve. Et dans ce rêve, lui apparut le petit chien qui, chez Madame Ahavzi, l'avait aidé à se procurer les pantoufles. Le petit chien lui dit dans son rêve, « Petit Mouk, tu ne connais pas encore bien l'usage des pantoufles. Sache que si tu fais 3 tours sur leurs talons, tu voyageras dans les airs pour aller où il te plaira. Quant à la petite canne, elle peut te faire trouver des trésors, car là où est enterré de l'or, elle frappe 3 fois le sol, et là où est enfoui de l'argent, elle le frappe 2 fois. Tel fut le rêve du petit Mouk. Lorsqu'il se réveilla, il réfléchit sur ce rêve étrange et décida de faire immédiatement un essai. Il chaussa les pantoufles, souleva un pied et commença à tourner sur l'autre. Mais si tu as déjà essayé de faire ça 3 fois de suite, avec une pantoufle immense, tu ne seras pas étonné d'apprendre que le petit Mouk n'y réussit pas du premier coup. Surtout si on tient compte du fait que sa lourde tête le faisait tomber tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Il tomba plusieurs fois, s'écorchant le nez, le crâne, mais ça ne le décourageait pas et il répétait ses tentatives. Finalement, il y arriva. Comme une roue, il tourbillonna sur son talon, tout en souhaitant atteindre la grande ville la plus proche, et hop ! Les pantoufles l'enlevèrent dans les airs, le portèrent avec la rapidité du vent à travers les nuages, et avant qu'il ait pu se rendre compte de ce qui lui arrivait, il se trouva sur une grande place de marché, où étaient installées de nombreuses boutiques, et où s'affairait un monde fou. Il se promena parmi les gens, mais il décida bientôt qu'il serait prudent de gagner des rues plus calmes, car ici, tantôt on marchait sur ses pantoufles, ce qui risquait de le faire tomber, tantôt il cognait quelqu'un de son poignard encombrant, et les gens le menaçaient de le battre. Le petit Mouk se mit alors à réfléchir sérieusement sur ce qu'il pourrait bien faire pour gagner un peu d'argent. C'est vrai qu'il possédait une petite canne qui pouvait lui révéler des trésors cachés. Mais où trouver tout de suite un endroit où était enterré de l'or ou de l'argent? À la rigueur, il aurait pu également se montrer dans les foires pour de l'argent, mais pour ça il était quand même trop fier. Finalement, il se souvint de la rapidité de sa course. Il se dit peut-être que mes pantoufles me permettront de gagner de l'argent. Et il décida de devenir courrier ou coursier. Se disant que la personne de la ville qui avait le plus d'argent et le plus de lettres pressées à porter était le roi, il demanda le chemin conduisant au palais. Devant le portail se tenait un garde qui lui demanda ce qu'il désirait. Comme il dit qu'il cherchait du travail, le garde l'envoya auprès du chef des serviteurs. Le petit Mouk demanda donc à ce chef des serviteurs de lui donner du travail comme messager royal. Le chef le regarda de la tête aux pieds et lui dit « Comment, avec tes toutes petites jambes, tu veux devenir courrier royal ? Va-t'en, je ne suis pas là pour plaisanter avec le premier fou venu. » Mais Mouk l'assura que sa demande était très sérieuse et qu'il était prêt à faire la course avec le courrier le plus rapide. L'affaire sembla fort ridicule aux surveillants. Il ordonna au petit Mouk de se tenir prêt pour une course qui aurait lieu le soir. En attendant, il le mena dans la cuisine et veilla à ce qu'on lui donnât un bon repas avec beaucoup à boire et des bonnes choses à manger. Lui-même, le surveillant, le chef des serviteurs, se rendit auprès du roi et lui raconta l'histoire du petit Mouk et de sa proposition. Le roi était un homme qui aimait à s'amuser. Il fut donc très content que le surveillant des serviteurs ait retenu le petit bonhomme pour le faire rire. Il dit au surveillant de faire préparer la course dans une grande prairie derrière le château, afin que le spectacle puisse être vu commodément par toute la cour, et il lui recommanda encore une fois de bien s'occuper du nain. Le roi raconta aux princes et aux princesses quel genre de distraction était prévu. Les princes et les princesses le racontèrent à leur tour, à leurs amis, à leurs serviteurs, et lorsque le soir approcha, tout le monde attendait impatiemment. Tous ceux qui étaient capables de marcher se pressèrent vers la prairie où étaient dressées des tribunes, du haut duquel on pourrait voir courir ce petit nain fanfaron et ridicule. Lorsque le roi ainsi que ses fils et filles eurent pris place sur l'estrade, le petit Mouk sortit dans la prairie et fit un grand salut à la noble assistance. À la vue de ce petit homme, des cris de joie retentirent de partout. Personne n'avait encore contemplé un tel personnage. Ce petit corps, avec cette énorme tête grosse comme une citrouille, ce petit manteau, ce vaste pantalon, ce long poignard dans cette large ceinture, ses petits pieds dans ses pantoufles immenses, ah non, c'était vraiment trop drôle. Cependant, le petit Mouk ne se laissa pas intimider par ses rires. Fièrement appuyé sur sa petite canne, il prit position et attendit son adversaire. Comme le petit Mouk le lui avait demandé, le chef des serviteurs avait choisi le meilleur courrier, celui qui courait le plus vite. Ce meilleur courrier s'avança donc, se mit à côté du petit Mouk et tous les deux attendirent le signal du départ. On donna un coup de trompette et comme deux flèches tirées sur le même but, les deux coureurs s'élancèrent dans le pré. Au début, l'adversaire du petit mouk prit de l'avance. Mais le petit mouk, sur les pantoufles qu'il entraînait, le pourchassa, le rattrapa et le dépassa. Et le petit mouk avait atteint depuis longtemps le but lorsque l'autre, tout essoufflé, arriva. Les spectateurs restèrent un instant silencieux, muets de surprise et d'étonnement. Mais lorsque le roi eut applaudi le premier, la foule hurla de joie en criant « Vive le petit mouk qui a gagné la course !» Entre-temps, on avait amené le petit mouk, vainqueur de la course, devant le roi. Le petit mouk se prosterna et dit « Très puissant roi, ce que tu as vu n'est qu'un petit exemple de mon adresse. Daigne seulement autoriser qu'on me donne une place parmi tes courriers. » Le roi lui répondit « Non, tu seras mon messager personnel. Tu resteras toujours auprès de moi, cher mouk. Tu auras chaque année 100 pièces d'or comme salaire et tu mangeras à la table de mes premiers serviteurs. » Mouk pensa enfin avoir trouvé le bonheur qu'il avait recherché si longtemps, et son cœur débordait de joie. Le roi l'utilisait pour ses missions les plus urgentes et les plus secrètes, et Mouk portait les messages avec la plus grande rapidité. Mais les autres serviteurs du roi ne l'aimaient pas. Il leur était pénible de voir que le roi aimait mieux un nain qui ne sachait rien faire d'autre que de courir rapidement. Ils tâchèrent donc de le faire tomber en disgrâce, c'est-à-dire d'obtenir que le roi ne l'aime plus. Mais le roi avait une confiance absolue dans son courrier en chef secret, car tel était le titre qu'il avait donné au petit mouk. Le petit mouk, qui s'apercevait bien que les autres ne l'aimaient pas et cherchait à lui tendre des pièges, ne cherchait pas à se venger. Il avait trop bon cœur pour cela. Au contraire, il réfléchissait par quels moyens il pourrait faire plaisir à ceux qui étaient devenus ses ennemis pour que ses ennemis deviennent ses amis. Il se souvint alors de la petite canne que, dans son bonheur, il avait négligée. Il pensa que s'il trouvait des trésors, ces messieurs seraient mieux disposés envers lui. Il avait souvent entendu dire que le père du roi avait enterré bon nombre de ses richesses lors d'une guerre où les ennemis avaient attaqué son pays. On disait aussi qu'il était mort avant d'avoir pu confier son secret à son fils. À partir de ce moment, Mouk emporta toujours sa canne avec lui dans l'espoir qu'un jour il passerait près de l'endroit où était enfoui le trésor du roi qui était mort, père du roi qui régnait à ce moment-là. Retourne maintenant la cassette pour entendre la suite de l'histoire du petit mouk.